On vient chez vous, c'est une rencontre mensuelle pendant une heure avec les acteurs locaux pour parler ensemble de leurs enjeux, leurs défis et leurs projets. Alors bonjour et bienvenue sur Radio Campus 99.5 pour cette nouvelle émission mensuelle. Aujourd'hui, nous sommes à Lariche, à la Pléiade, une constellation de talents artistiques où on peut, je cite, rire, pleurer, s'émerveiller, se divertir ou s'ennuyer. Quel programme ! On va peut-être faire tout ça avec nos invités que je vais maintenant vous présenter. Katia Lasfargue, alors il n'y a pas de protocole. Hein. Katia Lasfargue, responsable du pôle développement culturel de la mairie de Lariche. Benoît Bourbon, directeur du pôle famille à la mairie de Lariche. Zora Kahn, adjointe, donc une élue, vivre ensemble, jeunesse, lien intergénérationnel. Patrick Sotojo, qui est aussi un élu, donc qui est adjoint culture et patrimoine à la ville de Lariche, bien évidemment, et Dominique Faucret, qui est donc présidente de la Confédération pour Lariche, de la Confédération sociale, de la Confédération syndicale des familles. Et je dis bonjour aussi, bien sûr, à Mélissa. Bonjour Mélissa.
J'emprunte le micro de Patrick Sotojo, voilà, pour dire bonjour et merci à toi de nous proposer cette nouvelle émission qui va rejoindre notre grille dès la rentrée.
Alors de quoi on va parler tous ensemble? D'abord on est à la Pléiade, c'est un beau lieu et on est content d'y être. Là évidemment au moment où nous préparons cette émission, la saison 25-26 n'a pas commencé, mais vous saurez en allant sur leur site trouver toutes les informations nécessaires pour vous inscrire par milliers. Nous allons donc travailler ensemble sur une réflexion que nous avons, c'est qu'est-ce que Lariche ? Comment est-ce qu'on peut définir cette ville, qui habite, quels sont ses atouts, ses enjeux, ses problématiques ? On va déjà commencer par peut-être faire ce premier portrait de ville. Je me tourne vers vous, Patrick Sotojo, et je vous pose la question, si c'était une ville qui s'appelait Lariche, ce serait quoi ?
Bonjour à tous. Alors la ville de Lariche, oui, bah, c'est toute une histoire. Hein. Ville maraîchère au tout début, puis dès 83, un maire bâtisseur hein, qui était Alain Michel et qui nous a transformé Lariche, qui a eu l'audace, si vous voulez, de faire raser la Cité des Sables pour donner à la population un vrai territoire d'intégration. Et ça, on le reverra dans l'émission, mais ça a toujours été l'essence même de cette politique, intégrer tout le monde. Et ça, c'est important. Une ville qui est en perpétuelle transformation. On a eu derrière la mairie le quartier Saint-Côme qui s'est construit. Et puis là, une transformation majeure qui arrive, c'est l'arrivée du tramway pour 2028, avec bien sûr une transformation profonde de la ville, notamment rue de la mairie, rue du 11 novembre, et puis tout ce qui est quartier Plessis Botanique qui est en train de se construire. Et tout ça dans un souci, si vous voulez, de construction sociale, avec des logements sociaux, une intégration particulière, et puis un quartier sensible sur lequel on travaille énormément pour que on ait une vraie vie territoriale, apaisée, diversifiée et bien, enfin, comment dire, que chaque personne soit content de vivre à Lariche.
Alors Zora Kahn, on se doute que si le roi Louis XI revenait, il trouverait que la ville a un petit peu changé. Et en complément là, de ce qui vient d'être dit par votre collègue donc, de la municipalité, qui sont les habitants finalement de Lariche ? Carte d'identité ?
C'est 10 400 habitants à Lariche, dans différents quartiers, et je suis aussi élue à la politique de la ville, et donc quartier prioritaire, c'est Nique Bruyère et Marcel Pagnol, et donc à peu près 2000 habitants, faut compter, dans ce quartier prioritaire, et puis on a eu le courage aussi d'avoir, quand même, à côté, attenant au quartier prioritaire, une médiathèque qui est quand même juste à côté, qui permet de raccrocher la culture au plus proche des habitants qui pour lesquels on reçoit en tout cas moins de culture.
Et quand vous parliez, Patrick Sojo, donc cette première présentation, vous êtes adjoint à la culture, au patrimoine. Comment, et c'est la question qu'on peut vous poser à tous les deux, donc Zora Khan et Patrick Sojo, comment cette culture, ce patrimoine, dans cette volonté du vivre ensemble auprès de publics divers et dans l'intergénérationnel, comment vous arrivez à faire de la ville finalement? À créer une envie d'être l'Arichois et l'Arichoise.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment un enjeu primordial pour la ville et puis pour notre politique. Et ça, on l'a mis en place avec ce qu'on appelle la médiation culturelle, où on a une responsable, si vous voulez, fonctionnaire, hein, et c'est un poste, et son travail, c'est de faire de la médiation culturelle. Alors, quand on dit médiation culturelle, c'est aussi bien avec les écoles qu'avec notre résidence de personnes âgées, qu'avec le point accueil jeune qui est mis en place à Equinox. C'est aussi avec nos associations, de manière à vraiment qu'il y ait un lien et qu'il y ait un sens à tout ce que l'on fait. C'est-à-dire que la culture, elle va vraiment se loger à tout niveau. Trop souvent, je pense qu'on pense à la culture. Vous avez cité la Pléiade en entrée. La Pléiade, tout le monde pense que c'est une salle où on vient voir des spectacles. Mais ce n'est surtout pas que ça. C'est aussi la maison des artistes. C'est aussi le lieu de découverte pour tous nos enfants, pour voir les coulisses, l'envers du spectacle, ce que c'est. Et ça, c'est important, et c'est vraiment le rôle de la médiation culturelle qui le fait à tous les niveaux et avec toutes les personnes de la ville.
Zora Khan.
Pour compléter mon camarade Patrick Sojo, l'idée aussi, au-delà de nos deux délégations qu'on a en charge, c'était d'attirer la jeunesse vers la culture à travers différents projets. Je pense qu'on en reviendra par la suite. Mais notamment, c'était la question qu'on s'était posée au début de notre mandat, c'était comment attirer les jeunes à la Pléiade, par quel projet. Et pour ça, on a réussi à développer deux, trois projets en ce sens et avec la construction enfin de la maison des jeunes. Là, on va pouvoir développer la culture au plus proche.
Alors, j'ai regardé une carte et j'ai vu qu'il y avait une ville à côté de la Riche, qui s'appelle Tours, je crois. Non, blague à part, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'habiter à la Riche et pas d'être aspiré par la grande ville de Tours avec tout ce qu'elle peut offrir? Vendez-nous votre ville.
Oui. Alors moi, je suis un Larichois de 1978. Je ne suis pas originaire de La Riche.
Ça peut commencer à aller 78,
oui,
quand même.
Oui, parce que j'ai un certain âge. Mes collègues me le rappellent suffisamment. et je vais prendre mon cas personnel. Jamais je n'ai voulu habiter à Tours. On a déménagé quatre fois. On a toujours voulu rester sur La Riche parce que on est quand même dans un esprit de village. On se connaît tous. À la mairie, quand on vient à la mairie, les services nous reconnaissent. Il y a une convivialité qu'on ne trouve pas à Tours, ça c'est sûr. Et je pense que les gens qui viennent sur la Riche, c'est pour cette convivialité, cette proximité, si vous voulez, aussi avec les élus, les responsables de service. Et puis, c'est des vies de quartier qui sont vraiment identifiées et de voisinage qui est très intéressante.
Les services municipaux de la ville de Tours vont certainement vous envoyer un message de remerciement là, pour ce que vous venez de dire, mais vous dites ce que vous voulez, la parole est libre.
J'y ai travaillé quelques années, si vous voulez, et effectivement, on n'était pas si proche de la population.
Dominique Faucret. Vous êtes donc la présidente de la Confédération syndicale des familles de la Riche. Vous êtes en première ligne auprès des gens.
Auprès des habitants, oui, de ce quartier prioritaire. Et ce que je voudrais souligner par rapport à toute cette culture dont on a déjà parlé, c'est cet aspect multiculturel avec ces cultures très diverses dans la tour où notre local est implanté. Il y a quelques années, on avait identifié 13 nationalités différentes. Et je suis convaincue qu'à l'heure actuelle, on en aurait encore plus. Et sur le quartier en général, donc ça donne quelque chose d'énorme. Donc c'est tout un tas de cultures qu'il faut arriver finalement à rassembler. Il faut que chacun puisse garder son identité, mais qu'on puisse avoir une identité larichoise dans tout ça. Et que cette culture rejoigne tout un chacun, qu'on arrive à se connaître les uns les autres. Ce que tu disais, Patrick, c'était très intéressant. Effectivement, on n'est pas des anonymes à la Riche, on se connaît. Et ça permet justement un espèce de maillage pour que ces gens qui arrivent de cultures différentes puissent s'intégrer d'une autre manière également. Et c'est ce à quoi on essaye de travailler, nous, à la Confédération syndicale des familles. Bon, notre ADN, c'est le logement, la consommation, mais on travaille beaucoup sur le vivre ensemble aussi, sur les liens. Et il y a quelques années, on avait fait des courts-métrages qui nous avaient d'ailleurs amenés à la Pléiade. On a vu des gamins du quartier qui jamais n'avaient été jusqu'à la Pléiade. Donc on est un relais aussi pour pouvoir permettre de vous amener les gens jusque-là. Et on peut faire des choses les uns avec les autres. Oui, c'est ça. Katia, tu étais aussi venue à l'intérieur du quartier pour faire des actions.
On a bien entendu qu'il y avait des familles qui avaient 13 nationalités, qui avaient des personnes qui étaient à la Riche depuis parfois quelques années, donc qui ont pu aussi connaître, disons, l'époque de la cité maraîchère. Et en fait, j'avais une question, disons, sur la pyramide des âges de la Riche. Est-ce qu'on a d'un côté des familles avec des enfants et de l'autre côté des personnes plus âgées? Est-ce qu'il y a un trou en plein milieu ou pas du tout?
Bon, rapidement sur la population de la Riche, faut quand même savoir qu'on a quasi un tiers de la population qui a moins de 35 ans. Donc la Riche, ça reste quand même une commune où on a une grande partie de jeunes. Et après, je dirais, comme sur le territoire national, on voit nos seniors augmenter, bien évidemment. Mais je dirais pas plus à la Riche qu'ailleurs. Voilà, en tout cas pour répondre à la question, entendez que c'est une population assez jeune sur la Riche. Et peut-être après sur un portrait assez rapidement, et peut-être que Dominique pourra compléter, on a une partie de la population, avec une multitude en tout cas de problématiques qu'on pourrait appeler des familles à bas revenus, des familles monoparentales, essentiellement dans le quartier prioritaire, mais pas que. En tout cas, je dirais qu'elles se sont densifiées dans ce quartier parce qu'il y a une multitude de facteurs économiques et sociaux qui creusent les écarts, mais on a aussi cette population, je dirais, en dehors du quartier.
Oui, c'est tout à fait exact, d'autant qu'il y a eu des gens de la Cité des Sables qui ont été relogés là, avec déjà leurs problématiques. À ça se sont ajoutées justement toutes ces populations étrangères qui arrivent avec toutes leurs problématiques également. Donc forcément, c'est un quartier où économiquement, ça reste très, très faible, avec des gens qui ne vont pas forcément travailler, et puis des jeunes qui sont en rupture, souvent, c'est compliqué.
Que vous parlez de familles qui viennent d'horizons différents, de différentes nationalités. Je crois qu'il y a une certaine communauté portugaise à La Riche ou qu'il y a eu ça. Donc en fait, est-ce que vous voudriez nous en dire plus sur les nationalités qu'on peut trouver ici à La Riche?
Oh, c'est très diversifié. Hein. Là, effectivement, il y avait les Portugais, la population algérienne, je crois que c'est les premiers qui se sont implantés avec justement une même famille qui finalement est devenue énorme. Enfin... On a donc cette population algérienne. Actuellement, on a pas mal d'Afghans, on a des Irakiens. Je ne sais pas si tu peux compléter, Zora.
Oui, on a aussi beaucoup de familles syriennes qui, malheureusement, doivent quitter leur pays. Des familles libanaises aussi. Et puis, on commence à avoir, on a accueilli dernièrement une famille palestinienne où on a accompagné, d'ailleurs, au niveau du logement, pour qu'ils puissent vivre décemment ici à La Riche. Donc, La Riche, finalement, ça a toujours été... une terre d'accueil, une terre d'asile aussi, mais aussi où on accueille tout le monde sans regarder, en fait, sans discrimination possible, et ça fait partie d'une de nos fiertés aussi, de se dire qu'en fait, t'es juste une personne, c'est tout.
Une petite pause. Retour sur le plateau de On vient chez vous. Vous êtes toujours sur Radio Campus 99.5 avec nos invités, Zora Khan et Patrick Sojo, donc de la ville de La Riche, ainsi que Katia Lasfargue et Benoît Bourbon des services municipaux de La Riche, et Dominique Faucret, qui est la présidente de la Confédération syndicale des familles. Aujourd'hui, on parle de La Riche, évidemment, de ses atouts, de ses enjeux, et on va maintenant aller un petit peu plus au cœur. C'est normal, parce que je n'ai pas dit l'essentiel. Pour ceux qui nous rejoignent, celles et ceux qui nous rejoignent, on est à la Pléiade. Et on va évidemment parler de la culture. Et après, on terminera tout à l'heure en parlant plus précisément
précisément de la programmation, de la Pléiade notamment. Je me tourne vers Katia Lasfargue et Benoît Bourbon. Donc vous êtes des services de la mairie, donc vous êtes des agents municipaux, comme on dit, des fonctionnaires. Je rappelle que vous êtes Katia Lasfargue, responsable du pôle de développement culturel. Benoît Bourbon, vous êtes donc directeur du pôle famille. En complément de ce que viennent de dire les élus, vous n'aurez pas une parole d'élu, c'est normal, vous n'êtes pas des politiques. Mais en complément de ce qu'ils viennent de dire, vous qui êtes à l'avant-poste, là, les mains dans le moteur tous les jours, l'identité de la ville, ses atouts, pas de langue de bois. Hein.
Bonjour.
Katia Lasfargue.
Je vais reprendre les mots de Patrick Sojo tout d'abord concernant la médiation parce que ça a été un vrai choix politique de développer un poste de médiation très tôt sur la ville de La Riche, sachant que c'est un métier qui est reconnu depuis peu. Donc en ça, c'était vraiment un choix et une volonté poussée. Donc on est une médiatrice culturelle depuis plusieurs années maintenant au sein de la salle de spectacle. Mais ce pôle que je tiens, donc, qui s'appelle développement culturel, celui-ci, il est récent. Il va aussi dans une volonté politique de continuer d'aller encore plus loin vers les habitants et justement de sortir de ces lieux de culture et d'être vraiment dans l'espace public, dans la rue et avec des partenariats, dont un partenariat voilà, avec la Confédération syndicale des familles, mais bien d'autres sur lesquels je reviendrai quand on parlera des projets.
Oui, on détaillera un petit peu tout ça, bien sûr. Oui. Benoît Bourbon.
Bonjour. Peut-être moi un peu pour compléter et puis donner un peu ma vision de territoire. Moi, en tout cas, c'est pas si vieux en tout cas que je travaille sur La Riche. Ça fait à peu près 3 ans maintenant.
Vous étiez à la mairie de Tours ?
Du tout. Non, j'étais un peu plus excentré dans une communauté de communes où j'exerçais sur une quinzaine d'années et où moi, ce qui m'attirait en tout cas sur La Riche, c'était cette diversité et puis où il y avait... un vrai besoin, je dirais, de coordination des acteurs sur des actions éducatives, puisque c'est plutôt, en tout cas, mon champ de compétences. Et très vite, j'ai trouvé de nombreux acteurs, en tout cas sur le territoire, je dirais, très impliqués, et où ça a été assez simple, je dirais, de se coordonner pour mettre en œuvre des actions qui, de mon point de vue, ont réellement du sens. Et quand je dis du sens, c'est que je vois, en tout cas, même en 3 ans, les bénéfices, en tout cas, pour la population dont... je participe à m'occuper, notamment avec les écoles, notamment avec les centres de loisirs, notamment avec les associations.
Oui, mais est-ce qu'on ne voit pas toujours un peu les mêmes gens ? Pardon, hein, c'est les questions. C'est mon rôle de poser les questions qui agacent, mais ce n'est pas toujours un peu les mêmes gens ?
Alors, je ne sais pas quelle est la question. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que les gens qui s'investissent dans une commune sont toujours les mêmes ? Bah, je dirais il y a forcément, oui, un bout de ça. C'est-à-dire que quand on est issu de milieux favorisés où les parents ont l'habitude de l'engagement, il y a de grandes chances, en tout cas, que les enfants... Premier abord, c'est la question qu'on pourrait se poser. Après, l'essentiel de notre travail, c'est aussi d'aller chercher tout ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que le risque, c'est que... Si j'ai grandi dans un milieu favorisé où mes parents ou mon environnement ont l'habitude en tout cas d'être engagés et impliqués, il y a de grandes chances plus de chances que moi aussi, en grandissant, je me retrouve engagé, impliqué, alors que ça soit dans une asso, que ça soit demain auprès de mon quartier, que ça soit demain élu, etc. Mais en tout cas, l'essentiel du travail de la direction notamment, mais pas que, puisque... c'est aussi tout le travail d'une mairie, c'est aussi d'aller chercher tous ceux qui, un, ne sont pas armés et qui n'ont pas été outillés à. Donc ça, c'est l'essentiel de notre travail, de façon à ce que, je dirais, chaque habitant, et ça, j'ai envie de dire, peu importe l'âge, trouve sa place dans cette commune, que je trouve particulièrement riche, et où, ce que je disais tout à l'heure, c'est, moi, c'est quand même pas si vieux, ce qui m'a plu ici, c'est vraiment, en tout cas... cette particularité où je dirais qu'ensemble, c'est facile à dire, mais on va plus loin, quoi.
Ah ben oui, mais il faut que ce soit dit. La question à laquelle je n'ai pas eu de réponse, là, je me tourne vers les élus. Je ne suis pas issu de cette région et j'ai eu le sentiment, depuis que j'y vis, depuis quelques années, qu'à Tours, il y a quand même un cloisonnement entre diverses classes sociales qui est assez visible, si j'ose dire. C'est peut-être une analyse qui est fausse d'ailleurs, qui peut être discutée, mais en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Est-ce qu'à La Riche, on a ce genre de choses ou est-ce que c'est beaucoup plus mélangé?
Alors à La Riche, il peut y avoir à certains endroits du cloisonnement, mais quand même, ce qu'on garde en tête et ce qu'on voit quand on se promène à La Riche, que ce soit quand on passe en voiture, en bus, bientôt en tram, ou en vélo, en fait, on peut se promener d'un quartier à l'autre et pouvoir dire bonjour à n'importe qui, tout le monde, par exemple. Le quartier prioritaire, notamment, il n'est pas renfermé, il n'est pas fermé sur lui-même, c'est-à-dire on est obligé de passer dedans pour aller à un autre endroit. Et c'est ça aussi la richesse de La Riche.
Patrick Jotreau. Ce qu'il faut savoir, c'est que La Riche, à chaque fois qu'il y a eu un nouveau quartier de construit, on a eu des logements sociaux qui ont été systématiquement intégrés. Je pense entre autres au quartier Prieuré Saint-Côme, où on pense que c'est plutôt résidentiel parce qu'il y a des pavillons, mais il y a un quota de pavillons qui sont des pavillons sociaux et on a vraiment une mixité. Et ce qu'on peut ressentir sur certains quartiers de Tours, on ne le ressent pas sur La Riche, puisque vraiment il y a cette volonté politique de la mixité des gens.
Alors, on a, La Riche, sa diversité, ses enjeux, ses atouts. La politique culturelle, c'est un enjeu majeur dans une ville et pour une municipalité. La question, pour moi, c'est quelle est la politique culturelle que la municipalité met en place? Je vais me tourner tout de suite vers Katia Lasfargue et Benoît Bourbon pour qu'ils nous présentent un petit peu quelle est cette offre finalement qui a été mise en place, quelle politique pour les Larichois. Qui veut parler?
Alors je prends la parole du coup pour vous présenter non seulement la Pléiade mais la direction de l'action culturelle parce qu'elle est vraiment formée de plusieurs lieux. On a déjà énoncé la médiathèque qui est vraiment en cœur de ville et qui est à proximité du quartier prioritaire qui est vraiment fréquenté par tous les Larichois, tous les habitants avec des personnes âgées, des enfants, des ados. Donc c'est un lieu très important de la ville. On a l'école de musique de La Riche qui travaille donc étroitement avec la salle de spectacle La Pléiade. On a le pôle de développement culturel donc, que je gère, qui intègre aussi des ateliers d'art plastique. Donc on essaye d'être multidisciplinaire, notamment, pour toucher un maximum de personnes. Et surtout, ces lieux culturels, ce sont des outils. Ce ne sont pas que des lieux, c'est vraiment des outils pour aller vers les gens. Que ce soit les spectacles, les livres, voilà, c'est des moyens de s'exprimer et de parler avec les publics de sujets qui les touchent, de leur quotidien, de leur vie. C'est en ça que la culture, elle est importante. Et en tout cas, c'est comme ça que la programmation aussi va être réfléchie.
Donc on comprend en vous écoutant que c'est une offre qui est très diversifiée, qui est multidisciplinaire. Benoît Bourbon, vous souhaitez compléter ?
Peut-être rapidement, parce que moi en tout cas, les actions de la direction du pôle famille, elles viennent s'inscrire en tout cas en partie dans les actions culturelles portées par la municipalité, mais nous c'est pas le cœur même en tout cas de notre travail. Nous déjà c'est accueillir et accompagner l'enfant, l'ado et ses parents, c'est déjà énorme. Pour autant, en tout cas sur ces temps d'accueil, il y a forcément des actions ou des projets culturels en lien avec des associations du territoire ou alors directement avec mes collègues de la direction des affaires culturelles. Et puis récemment dans un autre cadre, on a vu en tout cas une initiative de jeunes élus à travers un conseil municipal des enfants qu'apporter un projet autour, je dirais, d'une sensibilisation autour du handicap. Et je dirais que dans le cadre, en tout cas, de l'organisation de cet événement, il y avait un aspect culturel, outre la sensibilisation au handicap. Il y avait des expos, il y avait des spectacles. Et je dirais qu'une partie, en tout cas, du public qu'on accompagne, nous, ils viennent s'inscrire là-dedans. Les écoles aussi ont des projets culturels à travers leurs projets d'établissement. On a pu développer à travers ce mandat, je dirais, une classe image. Donc, c'est l'occasion aussi de créer des parcours entre l'école élémentaire, le collège, Lamartine et puis le lycée Balzac, et où désormais, en fait, un enfant bénéficie d'horaires aménagés avec un enseignement spécifique. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là. Après, on a l'accueil de loisirs et où, dans le cadre des propositions, en tout cas des activités et projets, on peut avoir des initiations à toutes sortes de disciplines culturelles. Voilà.
Dominique Fauqueret, présidente de la Confédération syndicale des familles, vous avez fait, je crois, un partenariat avec la Pléiade. Expliquez-nous un peu ça.
Oui, on a fait l'année dernière un partenariat où vous êtes venu directement à la CSF pour développer des activités culturelles. Chaque mois, c'était un petit peu quelque chose de différent. Et c'était l'occasion, c'était la culture qui venait aux habitants et c'était quelque chose de très important. Sinon, nous, localement, on développe aussi des choses directement avec les habitants parce que on est sur le terrain, on voit des gens qui ont envie de réaliser certaines choses. L'année dernière, on a réalisé des fresques. Alors, c'était parti avec les plus petits, les tout petits au niveau de la crèche. Enfin, on voulait faire quelque chose de très général et on avait demandé un petit peu partout ce que les gens avaient envie de faire. Et c'est les tout petits qui ont débloqué un peu les choses en disant « on ferait bien une fresque ». Ça partait de faire sur du polycarbonate, des plaques de 50-50, des dessins. Alors, ça partait donc du plus petit qui griffouille un petit peu des choses un peu incompréhensibles. Mais après, on a vu le dessin se développer. Toutes les écoles ont participé également. On a toutes les crèches, comment on appelle ça, les micro-crèches, en fait. Toute la petite enfance a participé, mais également dans les écoles, toutes les classes. Et également chez les seniors, on a eu aussi une participation, ce qui fait qu'on a une fresque avec le dessin de toute une génération de la Richois, du plus petit au plus âgé. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Zora Kahn, Patrick Sautejo, comme vous êtes élu, je vais poser la question sympa. Vous payez tout ça comment? Où est-ce que vous trouvez de l'argent?
Le budget de la ville, c'est toujours très complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est des priorités politiques. C'est un engagement très fort de la ville de La Riche. Et ça date depuis très longtemps. Depuis les débuts des années d'Alain Michel, donc il y a 35 ans, c'est lui qui a souhaité créer la Pléiade, qui a été rénovée depuis, mais c'était une des premières salles de spectacle qu'il y a eu sur l'agglomération, avant l'espace Malraux et le Vinci, bien sûr. Vraiment, une volonté politique a été développée et qui a perduré. Pour ma part, juste un petit aparté, j'ai été 10 ans déjà adjoint à la culture sous Alain Michel, et je peux vous dire qu'on a fait vivre ça vraiment au maximum. Depuis le nouveau mandat, je suis revenu à la culture et on continue et on développe.
Oui, mais alors, sans vouloir vous offenser, le contexte a légèrement changé. Oui. On peut même dire qu'il s'est légèrement dégradé nationalement parce qu'il n'y a plus d'argent nulle part. On n'arrête pas de le dire. Il y a des régions pas si lointaines de la nôtre où on sabre quasiment 100 millions de financement public pour la culture. Concrètement, là, parce que j'ai pas vraiment ma réponse, c'est-à-dire que concrètement... où allez-vous trouver l'argent dans les années à venir compte tenu du contexte très dégradé des finances locales?
Sachez une chose, cette année, le budget de la culture à La Riche a augmenté. On est certainement une des rares municipalités à l'avoir fait. Pourquoi? Parce qu'on a créé ce pôle culturel avec un développement art visuel dans la ville. on va ouvrir là, au mois de septembre, une classe orchestre à l'école Paul Bert, où on va avoir des enfants pendant 3 ans qui vont avoir la possibilité d'avoir des horaires aménagés, un apprentissage et un instrument de musique, tout ça par les ressources communales.
Sans
augmentation des impôts. Ce n'est qu'une répartition
et
vraiment des choix politiques. C'est ça qu'il faut savoir. Il y aura peut-être un petit peu moins de ronds-points, il y aura peut-être un petit peu moins de...
C'est ce que j'allais dire, ça se fait par choix, par rapport à quoi ?
Ce sont des choix.
Moins de ronds-points.
Donc ça peut être, moins de rénovation des chaussées. C'est quelque chose qui coûte très cher aux villes. Au lieu de faire 2 km de chaussée, on va peut-être en faire que 1,5 km. Mais ça va nous permettre de...
Les habitants vous suivent sur ce genre de choses ?
On a été élus pour ça, on ne l'a jamais caché, donc on peut dire qu'ils nous suivent. Et on en est fiers, puisque tout ça s'est axé sur la culture pour nos générations futures, mais aussi nos seniors, puisque Zorakan a mis des choses en place sur nos seniors. Et des fois, ce n'est pas des coûts qui sont excessifs. Après, on peut aussi, dans nos programmations, mieux réfléchir, travailler plus sur de la création, au lieu d'avoir des spectacles, on va dire, plus connus de tous, ce que j'appelle du spectacle TF1, qui nous coûte très cher.
Alors, il y a des maires qui mutualisent les écoles, les bus scolaires, les piscines. Est-ce qu'à La Riche, on mutualise les équipements et la culture ? Est-ce qu'on choisit de... Est-ce qu'on fait des tarifs spéciaux pour les non-larichois ? Enfin, je ne sais pas, qui veut répondre ?
Bien sûr, on a des tarifs spéciaux, mais en plus, on mutualise nos équipements parce qu'on a beaucoup de partenariats. On va tomber sur des partenariats avec le CCNT, qui est une structure
chorégraphique.
On va travailler avec le Théâtre Olympia. On fait des copartenariats. On travaille aussi avec le Petit Faucheux, le Temps Machine. Ouais. Et c'est comme ça que l'on mutualise, si vous voulez, nos équipements et qu'on arrive à plus facilement ensemble à gérer nos budgets et tout le monde s'y retrouve.
Mais ça, c'est concrètement, par exemple, donnez-nous un exemple d'une mutualisation.
Avec le CCNT, je vais laisser Katia préciser ce qu'on fait pour la semaine prochaine.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement alors ?
Alors concrètement, c'est déjà partager les frais entre deux structures, accueillir par exemple un spectacle à deux. Avec le centre chorégraphique, cette année, on a même plusieurs dates. On intègre leur festival. On fait attention à accueillir aussi des équipes de proximité. Donc on va avoir un travail pour essayer de repérer des artistes de la région aussi, donc, qui va nous permettre d'avoir un moindre coût sur les hébergements, les transports, parce qu'en fait ce qui coûte le plus cher en général quand on accueille des spectacles, c'est les transports notamment. Donc la réflexion, elle va se faire aussi sur ce genre de détails. Et puis, mis bout à bout, en fait, en effet, ça va se répercuter sur les budgets plus concrètement. Et on travaille énormément avec les autres structures culturelles de la métropole, le Petit Faucheux, le Théâtre Olympia, chez qui on aura un spectacle jeune public. Donc les Larichois iront directement au Théâtre Olympia. Voilà, on réfléchit à tout ça dans la programmation.
Dominique Faucret.
Avec La Riche sans talent, on avait aussi ce souci de se dire sur La Riche, on a des talents multiples. Et pourquoi faire appel justement à des professionnels tout le temps ? On peut tout à fait préparer une fête où on montrera justement que chacun a des talents à apporter et qu'on peut vivre quelque chose de chouette.
Des pratiques amateurs.
Ouais, on avait fait donc La Riche sans talent. L'idée, c'était de montrer toutes ces cultures qui sont à La Riche. Et le plus gros point, ça a été un concours de cuisine. Parce que ça rassemble, effectivement, là, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. La cuisine, c'est quelque chose, c'est vraiment sa culture personnelle, ça. Et chacun a eu à cœur de venir montrer quel plat il réalisait. Donc, on a fait ça l'année dernière et on a recommencé cette année. Et on a eu cette année, des plats ça valait ce que peuvent faire des grands restaurateurs. Hein. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Alors l'idée, c'est aussi d'étendre ça, que les gens puissent venir aussi chanter, puissent venir danser. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Ça demande un petit peu plus de temps. Mais c'est là aussi qu'on a besoin les uns des autres. Vous, au niveau du service culturel, vous pouvez apporter beaucoup. Vous avez refait quelque chose cette année à ce niveau-là et on est très complémentaires.
En effet, cette année, justement, je rebondis parce qu'on a fait un projet autour de la musique où pendant plusieurs mois, la compagnie Supernova a pu développer son projet marathonique. Et donc, c'est un projet avec des amateurs, avec des habitants. Dès le mois de janvier, ils sont venus avec leur batterie au milieu du quartier chercher des gens intéressés par la musique, par le chant. Et tout ça nous a mené à un événement festif qui est le Festival Itinéraire Bis, où ces personnes-là, ces habitants ont pu monter sur scène devant un public et chanter. On a recommencé un autre événement cet été aussi avec le centre social directement dans le quartier et le marathonique. Donc c'est vraiment des projets qu'on développe de proximité pour que les pratiques amateurs soient aussi mises en avant.
Pour rebondir sur ce qu'on dit nos invités, alors là, vous parliez, madame, justement, de l'idée de faire quelque chose autour de l'alimentation. Est-ce qu'on pourrait supposer que la ville de La Riche puisse être partenaire du Refugee Food Festival, par exemple ? Donc, un événement national autour des cultures de l'alimentation et qui permet justement à des personnes réfugiées de participer en tant que restaurateurs, de produire des choses comme ça. Et je pose cette question parce que le Théâtre Olympia était associé cette année à cet événement, donc recevait la guinguette de Tours aussi, donc recevait des événements sur place qui étaient ouverts à tout public.
Alors je crois que sur Equinox, il y a quelque chose qui se vit dans ce sens-là. Je ne sais pas si toi, tu as des informations, mais il y a le food truck, il y a des choses qui...
En tout cas, oui, pour Refugee Food, pourquoi pas. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas de restaurant municipal digne de ce nom pour accueillir et à la fois un cuisinier ou une cuisinière d'un réfugié et un cuisinier français. Mais en tout cas, on a de bons restaurateurs à La Riche où on pourra faire relayer, pourquoi pas, le projet au contraire. Et pour, effectivement, autour de la table, il manque aussi, qui sont en congé, malheureusement, le centre social Equinox, qui est quand même un acteur essentiel dans le quartier, dans la ville et dans
on
le
reviendra,
quartier.
On reviendra,
mais riche. Bien sûr, j'espère bien. Et pour le coup, ils ont donc la Ligue de l'enseignement qui tient l'équipement, a tout un projet autour de l'alimentation et notamment un food truck qui s'appelle La Marmite et où l'idée, c'est d'organiser des parcours avec les habitants qui veulent se lancer dans l'alimentation, qui veulent se lancer dans la restauration, souvent des personnes qui sont précarisées au RSA. Et l'idée, c'est de les accompagner à développer tout doucement leur future entreprise pour qu'après, ils soient autonomes par le prêt, par exemple, du food truck ou financer, par exemple, des projets comme cet été dans le cadre du festival Itinéraire Bis. C'est des familles qui ont pris en charge le food truck La Marmite pour l'année prochaine aller à Disneyland avec les enfants de La Riche.
Plus modestement, nous, on développe des ateliers cuisine sur La Riche, alors où toutes les cultures sont invitées à venir également préparer des plats et puis les faire goûter aux uns et aux autres.
Je souhaitais revenir aussi sur les programmations, les co-accueils dont vous avez parlé avec notamment le CCNT, le Temps Machine, le Petit Faucheux. Là, c'est peut-être quand même des lieux qui sont identifiés clairement par les Tourangeaux, en tout cas sur la métropole. Peut-être qu'on est quand même dans une certaine culture légitime. Comment vous parlez de ces événements aux plus jeunes et aux Larichois ?
Alors, c'est là où l'humain rentre en jeu. Et donc c'est en ça que c'est important d'avoir non seulement une médiatrice au sein de la salle qui se déplace dans les écoles, qui prépare chaque spectacle jeune public en faisant des interventions directement dans l'ensemble des classes de la ville. Et puis mon travail plus personnel où je vais directement aussi dans les autres services, dans les lieux, présenter les spectacles ou proposer des projets qui vont être en lien avec les thématiques des spectacles pour aider à passer cette porte justement qui n'est pas toujours évidente. On organise des visites, souvent on met en place en fait des parcours. Ça ne se fait pas en une fois. Donc par exemple avec le point accueil jeune de la ville, ils sont venus faire des visites de la salle. Moi je suis allée faire des projets directement avec eux. On a eu un projet de réalisation de film il y a un an. Et au fur et à mesure en fait il y a une confiance qui s'installe. Je peux parler aussi du dispositif réussite éducative avec lequel on travaille depuis plusieurs années maintenant, et ils participent à nos ateliers directement à la Pléiade le mercredi une fois par mois. Donc c'est vraiment des rencontres, de la confiance pour ensuite les amener à venir voir un spectacle et à se sentir justement légitime au milieu du reste du public qui compte en effet aussi des habitués. Mais on a quand même cette chance à la Pléiade d'avoir un public qui est assez diversifié. On a des habitués, on a des personnes âgées, mais pas que. Ça, c'est un peu le cliché qu'on pourrait avoir. Mais le fait que La Riche soit un petit village, c'est vrai que c'est plus facile de venir à la salle d'à côté qu'on connaît, devant laquelle on passe, qui est à deux rues, que d'aller dans un grand établissement qui serait à l'autre bout de la métropole.
Pour compléter aussi ce que disait Katia, ça fait quelques années en tout cas que le service jeunesse, je dirais, envoie, ou je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, va à la rencontre de festivals, notamment au Quart de Tour, le festival Kanyamakan. C'est l'occasion en tout cas pour des jeunes larichois qui n'avaient jamais mis les pieds, d'aller voir ce qu'est un festival, mais on va au-delà de ça, c'est-à-dire que quand Katia le disait aussi, les jeunes de La Riche, via le service jeunesse, viennent visiter, c'est quoi la Pléiade, c'est quoi les loges, c'est quoi une résidence, etc. De la même façon sur les festivals, c'est aussi, ce qu'on se doit de faire et ce qu'on fait avec les jeunes. Et puis, on crée des partenariats locaux entre collègues, mais on a des jeunes qui ont aussi organisé des événements à la Pléiade, notamment un escape game, ce qui a permis aussi à des familles, en tout cas, qui n'avaient peut-être jamais franchi, les portes de la Pléiade, d'y venir avec ses enfants pour participer à une soirée autour d'un escape game. On a eu aussi, pendant un an, la réalisation d'un film avec l'association Sans Canal Fixe et puis les collègues de la Pléiade, où en fait les jeunes de La Riche ont fait un court-métrage d'une quinzaine de minutes sur c'est quoi être un jeune de La Riche. C'est aussi un moment où projeter ce film-là avec les jeunes, les élus et les familles, c'est aussi à un moment donné participer à découvrir tout ça.
Pour compléter, on a aussi par exemple l'école Paul Bert qui participait à un projet danse départemental, et on a la municipalité a mis à disposition la salle de la Pléiade pour ces rencontres départementales avec un spectacle des élèves de Paul Bert. Moi j'y étais, c'était marrant, il y avait tous les parents sont venus. Ah, on va dire 90% des parents n'avaient jamais mis les pieds à la Pléiade. Et ça, c'est, pour nous, c'est quelque chose de vraiment bénéfique. Et on n'en a pas parlé, on l'a laissé sous-entendre. On a mis en place ce qu'on appelle l'école du spectacle pour les enfants larichois. Chaque enfant scolarisé, tous les ans, a deux spectacles gratuits, si vous voulez, des spectacles professionnels qui sont joués à la Pléiade sur leur temps scolaire, avec bien sûr de la médiation culturelle, comme tu l'as dit Katia, la visite des coulisses, les échanges avec les artistes, très important, parce que on ne veut pas que l'école du spectacle, ce n'est pas qu'une consommation de visuel, c'est aussi un vrai échange. Et le soir, ils peuvent revenir avec leurs parents voir ce spectacle. Et c'est les enfants qui amènent les parents en disant oh, « j'ai vu un truc sympa ». Vient, et là on a aussi ce qu'il faut bien savoir, une politique tarifaire très agressive. Je veux dire, on a des passes 4 spectacles pour 40 €, qui sont à 10 € le spectacle, et qui sont des spectacles de très grande qualité.
Et puis on sait aussi en tout cas que franchir en tout cas les portes d'une salle ou d'un festival, on n'est pas tous égaux, et que l'essentiel du travail, c'est aussi d'éveiller dès le plus jeune âge C'est aussi pour ça que, je dirais, en fin d'année, à la Maison de la Petite Enfance, on a des résidences d'artistes. Donc, on travaille aussi l'éveil culturel à la Petite Enfance. Et quand Katia, tout à l'heure, elle parlait de parcours, l'idée, c'est de continuer ça pour qu'il y ait de moins en moins de freins et qu'un maximum d'enfants, de jeunes, en tout cas, s'autorisent.
Alors, je rajoute une question sur le millefeuille. Tout à l'heure, je crois que c'est M. Sotjo qui a parlé de programmation dite TF1, voilà, de choses un peu convenues, mais cela dit, ça peut aussi plaire à certains habitants. Donc, quels sont les arbitrages, en fait, qui décide de ce qui est programmé à la Riche, qui décide de c'est quoi les festivals bien où on va envoyer les jeunes Du coup, c'est parce que c'est nous, on trouve que c'est bien. Est-ce que c'est parce qu'on sait que ça va plaire aux gens? Est-ce qu'on se dit, on va mettre un peu de choses, on sait que ça va leur plaire, mais on va essayer aussi d'apporter autre chose? Quels arbitrages, qui fait ça, en fait?
Alors, les arbitrages sont avant tout des arbitrages politiques. Hein, je veux dire, c'est notre ligne politique. Programmer une grosse tête d'affiche à la Pléiade, pour nous, ça n'a pas de sens. Une salle de 300 personnes, très beau plateau, très belle salle. Quel est l'intérêt de faire une grosse tête d'affiche où on va avoir 3000 personnes qui vont vouloir venir, donc 2700 déçus? Nous, notre intérêt, c'est de faire découvrir, donner place à la création. Beaucoup de spectacles sont des premières créations et permettre vraiment, à chaque fois c'est ce qu'on dit, c'est soyez curieux. Ne cherchez pas à voir ce que vous voyez à la télévision, il n'y aura pas ça chez nous. Voilà, ça, on est clair.
Donc là, il y a un choix politique assumé.
Ah, totalement assumé. Donc, après, on a notre directrice de programmation, Marie Indic, qui est en vacances, la chanceuse, et qui, elle, a bien compris notre ligne politique. Et c'est elle qui nous propose, si vous voulez, en fonction de la ligne politique citée, elle nous propose différents choix. Et c'est avec monsieur le maire et moi-même où on fait les choix définitifs, qui sont en général tellement bien faits par notre directrice qu'on les approuve directement.
Est-ce que je vous choque si... Je sens que pourrait parfois poindre un entre-soi.
Ah là, oui, vous allez me choquer un petit peu, là. C'est tout ce qu'on combat, l'entre-soi. Effectivement, on en a conscience. Hein. C'est, et l'avantage, quand même, avec tout le travail en profondeur qu'on fait au niveau de la médiation culturelle, si vous venez à la Pléiade, eh bien, vous allez voir une diversité de publics que vous ne trouvez pas dans les autres salles. Et ça, à chaque fois, on en est vraiment satisfait. Et je pense que c'est dû aussi, justement, à cette curiosité, cette programmation, très pertinente qui est proposée. Parce que l'entre-soi, là, je vais faire râler certaines salles, mais au Petit Faucheux, quand vous allez au Petit Faucheux, on est dans l'entre-soi. Hein. Je veux dire, moi, au début, quand j'allais au Petit Faucheux, j'avais peur d'y aller. Les gens me regardaient en disant, mais il n'est pas de notre bande. À la Riche, c'est pas toujours... on a vraiment un public différent.
Je pense que c'est l'aspect pluridisciplinaire qui aide aussi. Parce qu'en effet, on n'est pas concentré que sur une musique, que sur la danse, etc. Et donc, davantage de curieux, du coup, de découvrir ces formats-là. Et le fait de laisser beaucoup d'espace pour les spectacles jeunes publics, ça y participe. Parce que, comme on le disait, dès la maternelle, les enfants connaissent les équipes, connaissent les lieux. Et donc vont venir fréquenter cet espace. Ce qu'on n'a pas cité, c'est aussi que la Pléiade se transforme en cinéma. Donc on accueille le dispositif école au cinéma, maternelle au cinéma. Donc ils viennent vraiment régulièrement dans l'année. Ils se sentent vraiment chez eux. Un enfant peut venir presque 10 fois dans l'année. Avec le dispositif école au cinéma, les spectacles, et si on rajoute un atelier ou s'il fait partie de l'école de musique. Enfin, voilà, c'est vraiment un lieu fréquenté par les enfants. Et du coup, ça fait le lien avec les familles aussi.
On arrive à la fin de l'émission, donc on va peut-être justement parler de ça, la programmation de la Pléiade et peut-être d'autres lieux culturels. La saison va bientôt s'ouvrir, 2025-2026. Mesdames, messieurs, faites-nous rêver. Quelle est l'offre de la nouvelle saison à La Riche pour que les 140 000 habitants de Tours se précipitent par bus entier?
Alors la première image que vous allez voir pour cette nouvelle saison, c'est notre visuel jaune et festif de l'illustratrice locale Léa MKL. Donc c'est elle qui a réalisé notre visuel et c'est elle qui va avoir un parcours sur l'année dans La Riche pour favoriser tout ce que l'on vient de citer, puisqu'elle va être en résidence 2 mois sur la ville, résidence de création, en partenariat avec la Maison de la Petite Enfance. Donc elle va travailler directement avec la jeunesse. On va la retrouver au mois de mars pour une exposition à la médiathèque. Donc là aussi, elle participe à la transversalité des différents lieux. Elle intégrera, grâce à cette exposition, le festival Brice Mandel, que l'on accueille depuis plusieurs années ici à la Pléiade. Donc voilà, c'est le premier visuel que vous allez voir et elle reflète assez bien ce que l'on essaye de mettre en place.
Et faites-nous rêver un petit peu plus, mesdames, messieurs, dans d'autres disciplines, qu'est-ce qu'il y a donc qui a envie de parler de ça, la maison des jeunes? J'ai entendu ça, là. Quelqu'un a dit ça, en l'occurrence Mélissa.
La maison des jeunes, donc, c'est un équipement nouveau sur la commune, dédié aux 11-25 ans, qu'on inaugure en tout cas le 29 août, 17h30. Et donc, on change un peu l'histoire de la ville où, historiquement, on accueillait plutôt, en tout cas, les 11-17 ans. Dorénavant, on accueillera les 11-25 ans, donc dans des projets individuels et collectifs. Et on pourrait très bien envisager qu'il y ait des projets culturels, puisque c'est aussi le thème de l'émission, mais c'était l'aparté sur cet équipement. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une attention particulière pour chaque jeune, bien évidemment de travailler la prise d'initiative, l'engagement, l'implication, la participation à la vie de la cité, et puis avoir une approche aussi, d'être un espace dédié, identifié sur les problématiques jeunesse, et en fonction des problématiques identifiées, de pouvoir réorienter en tout cas les jeunes sur les bons acteurs. On ne peut pas traiter tout, en tout cas quand on est animateur, donc nécessairement travailler avec la mission locale, toute l'information jeunesse qui concerne aussi la recherche d'un premier emploi, l'accès à la santé, peut-être demain l'accès à un logement, l'accès à des bourses parce qu'on est étudiant, et voilà, j'en passe.
C'est-à-dire que ce qu'on comprend à travers ce que vous dites, c'est que la culture ne peut pas être détaché du vivre ensemble, quoi, et de l'insertion et des projets personnels. C'est pas la consommation pour de la consommation.
Alors je vais me faire un peu politique. Je crois pas, en tout cas, que à aujourd'hui sur la commune il faille détacher. Je pense que c'est un tout. Effectivement, la culture, elle fait partie de l'individu. Et après, on a des pratiques culturelles ou pas, mais quoi qu'il en soit, l'individu s'inscrit, quoi qu'il en soit, dans un environnement qui lui a une culture. Voilà. Et après, on a des freins, des empêchements. Et je pense que l'essentiel, en tout cas, des acteurs de terrain, c'est de lever les freins pour travailler à l'émancipation.
Des acteurs ou des élus? Les deux.
Alors, moi, je dirais, un, parce qu'il y a des volontés municipales, c'est plus simple, en tout cas, pour les acteurs. Sans volonté, c'est compliqué pour les acteurs. Voilà.
Madame, monsieur les élus, vous êtes d'accord avec cette approche? Vous voulez la compléter, l'enrichir, la commenter?
Non, bien sûr, Benoît a tout à fait raison. Je veux dire, les élus, nous, on ne fixe que les grandes lignes, mais en aucun cas, je crois que s'il y a une chose à saluer ici, c'est le travail de nos services qui mettent en œuvre nos idées.
Il y a combien d'agents municipaux à La Riche?
Ça doit être 140, je crois, entre 140 et 150. Ouais, c'est ça, parce qu'après, il y a les, comment dire, il y a les agents qui sont des animateurs et tout, mais à temps plein sur la mairie, on doit être entre 140 et 150 agents municipaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, moi, je tiens à les remercier là, hein, que ce soit nos services culturels, pôle famille, mais y compris tous les autres services, que ce soit nos services techniques, c'est les espaces verts, vraiment. Sans eux, ben, l'élu n'est rien. Et sans nous, ils ne peuvent pas faire grand-chose non plus. Donc c'est vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on travaille ensemble, dans le même axe, et puis vraiment...
Chacun dans ses prérogatives.
C'est ça. Et surtout ne pas laisser les agents travailler, je pense que c'est ça qui est important.
C'est ça. Les élus ne sont pas chefs de service et les, voilà. Et les fonctionnaires ne sont pas élus.
C'est ça, et ça c'est très important. Pour revenir sur la programmation et puis faire rêver les gens, bon allez, on peut lâcher une date.
Un peu de teasing, un peu de
allez,
teasing.
Un petit, 3 octobre, on aura Arthur H qui sera à la Pléiade, mais surtout une présentation qui va être... comme bien souvent fabuleuse, une soirée cabaret, je crois que c'est le 11 septembre si je ne m'abuse, dès 19h à la Pléiade, et là vous découvrirez toute la saison.
C'est la présentation de saison.
Ouais, la présentation de saison, et qui est toujours très festive, hein, je veux dire, on la veut dynamique
et
festive.
Ça, c'est ouvert à tout le public,
c'est ouvert à tout le public. Sur réservation, ouais. On n'a malheureusement que 300 places. Sinon, je pense qu'on pourrait en accueillir nettement plus.
Cette année, en effet, le lancement sera accompagné par le Théâtre du Sous-Sol. Et c'est eux qui vont nous faire rêver avec leur format de cabaret qui va être réalisé là sur mesure. Donc nous aussi, on aura quelques surprises, on ne sait pas tout.
Dominique Faucret, qu'est-ce que vous attendez pour les familles de la saison culturelle qui s'ouvre ? C'est quoi le plus important pour vous ?
De la joie. De la paix, enfin voilà, des choses qui font, on a parlé beaucoup de rêves là, et c'est important, les familles ont besoin de sortir de leur contexte triste quand ils n'ont pas suffisamment d'argent, et que la culture puisse être accessible à tous, bah, c'est quelque chose d'essentiel, parce que effectivement la culture ça fait partie de la personne.
Eh bien nous arrivons à la fin de cette émission, là j'ai 2-3 mots à vous dire. Mais il faut que je les trouve, parce que c'est du spontané qui avait déjà été préparé. Merci à nos invités. On vient chez vous, l'émission qui se déplace là où vous êtes. On était aujourd'hui à La Riche, à la Pléiade. Alors à bientôt, la vie continue sur 99.5. Ça tombe bien, c'est la fréquence de Radio Campus.
Yeah.